Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. But I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le numéro 82 de votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons du pain sur la planche. D'abord, nous nous immergerons dans les eaux agitées du Pacifique avec O Lucy, un premier film de la réalisatrice japonaise Atsuko Hiranagi qui nous ballottera entre Japon et Californie. Puis Maë nous emmènera sur les eaux non moins houleuses de la Méditerranée entre Liban et Palestine pour nous parler de l'insulte de Ziad Doueri qu'elle est allée voir pour nous. Léa nous plongera ensuite dans l'histoire tumultueuse d'Anna, héroïne du film éponyme d'Andrea Palaoro. Enfin, nous traverserons la Manche pour retrouver Caroline qui nous parlera de ce qui se fait dans les salles obscures d'Albion dans un tout nouvel épisode de Toute Toile Dehors. Et bien sûr, nous nous retrouverons en toute fin d'émission pour faire un point sur les sorties et événements cinématographiques de la semaine. Mais sans plus tarder, commençons avec O Lucy, qui est un premier film, donc comme je l'ai dit, d'Atsuko Hiranagi. Alors, à Tokyo, Setsuko est blasée par sa vie solitaire et insipide entre son minuscule appartement et son open space de salary woman, considérée par ses collègues et par sa sœur comme une vieille fille. Rien ni personne ne semble s'intéresser à elle, ni l'intéresser, jusqu'à ce que Mika, sa nièce, parvienne à la convaincre de prendre des cours d'anglais avec un professeur tout à fait particulier, John. Celui-ci offre une nouvelle identité à Setsuko, Lucy, une femme avenante, coiffée d'une perruque aux allures Marilyn Monroe-esque, si bien que lorsque John et Mika fuient ensemble aux États-Unis, Setsuko décide de partir elle aussi en Californie avec sa sœur afin de retrouver l'homme pour lequel elle nourrit des sentiments ambigus. Alors, qu'avez-vous pensé de O Lucy ?
Avoir la tête de Thomas.
Ah si, moi j'ai bien aimé.
Ah d'accord.
Ah, si, si, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'était un film intéressant sur la question de s'échapper un peu de sa vie, enfin dans des termes très génériques, hein, mais dans une pour essayer de trouver quelque chose d'autre que ce qu'on est, et en fait essayer, mais qui s'affronte toujours à une incompréhension en fait, et qu'on n'arrive jamais à le faire. Du coup, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Voilà.
Oui, j'ai bien aimé le propos du film aussi sur cette tentative d'autre, un peu jetée comme ça et vaine dès le début. Après, j'ai trouvé assez mal réalisé. Mais ça, c'est des choses que je me suis dit après le film, il me semble, parce que quand tu regardes le film, même les choses qui ont tendance à être un peu kitsch ou trop, enfin, il y a des moments où il y a des musiques qui viennent se coller à des plans où la caméra se lève et t'as une voiture qui part au loin. Enfin, ça, j'ai trouvé ça pas très bien réalisé, mais c'est des choses que tu te dis après le film. Pendant le film, je l'ai bien aimé. Après, moins.
D'accord. Alors, moi, j'ai plutôt bien aimé ce film. J'ai trouvé, ouais, pareil, que le propos était très intéressant. Il m'a semblé que c'était un film qui était sur le langage, le mutisme et l'incapacité de dire et de se dire d'une certaine manière. On a l'impression tout au long du film que personne ne parle la même langue, qu'ils sont tout le temps sur des plans totalement différents, que même dans leur manière de jouer, les acteurs semblent ne pas réussir à communiquer, ne pas réussir à rentrer en résonance, on a l'impression. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Oui, bah on s'en rend surtout compte au moment où ils sont dans ce cours d'anglais et où ils trouvent un langage commun mais qu'ils comprennent tout juste, puisqu'ils se disent juste « hi » et où ils se prennent dans les bras et là on se dit « ah ouais, quand même ouais. ».
Oui, et puis dans ces étreintes, il y a quelque chose d'extrêmement distant, hein, même s'ils sont physiquement très proches, j'ai l'impression. Et puis d'autre part, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose autour de la bouche qui va pas, c'est-à-dire soit elle a quelque chose qui obstrue sa bouche, soit elle tousse, soit elle a cette espèce de balle de ping-pong dans
oui,
la bouche.
Vrai.
Elle a toujours l'air d'être au bord de l'étouffement, même dans son appartement microscopique qui est totalement saturé. Elle est tout le temps dans une toute petite portion de son appartement. On a l'impression que elle est sans cesse, il y a quelque chose qui l'obstrue, quoi, qui obstrue littéralement sa bouche. Enfin, bon, alors là, je vais peut-être spoiler, donc bouchez-vous les oreilles au cas où. Mais à la fin, lorsqu'elle tente de se suicider, elle le fait en avalant des comprimés. Et pour la sauver, Tom est obligé de la... Enfin, il lui met le pommeau de douche dans la bouche pour, nettoyer... enfin, pour la forcer à vomir. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de la... voilà, du nettoyage du corps par l'orifice buccal, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
J'avais pas pensé à ça, mais je trouve ça assez juste.
Sinon, à l'inverse, en fait, elle en dit trop. Au pot de départ de sa collègue, par exemple, où d'un coup, elle se met à déverser tout un tas d'insanités, ou alors, lorsqu'elle est au bord de la falaise et qu'elle parle avec sa nièce et que l'issue de cette conversation est un peu difficile, on a l'impression qu'en fait, elle a du mal à gérer ce qui sort ou ce qui doit pas sortir, justement.
Bah, elle n'arrive jamais à trouver sa juste place dans tout ça, et du coup, il y a un grand mal-être qui s'échappe d'elle. Enfin, oui, c'est au moment où elle dit à sa nièce... oui, bah tu sais quoi, moi aussi j'ai couché avec lui. En fait, elle le dit en rigolant, alors que c'est la chose la plus terrible du monde à lui dire. Enfin, elles se sont fait toutes les deux avoir, et puis elle lui avoue qu'elle aussi elle s'est fait avoir. Et ouais, même là, on dirait qu'elle est à côté. Puis même après, quand elle va dire à John qu'elle l'aime, enfin, on voit bien que c'est impossible. Enfin, il y a plein d'impossibilités. Elle se prend dans la tête plein d'impossibilités de faire quoi que ce soit. Et je trouve ça hyper touchant, en fait. Et d'impossibilité aussi, et du coup d'impossibilité à s'exprimer elle aussi en tant qu'elle est. Et même le moment où justement elle va trouver, parce que le début, enfin les cours d'anglais au début, c'est vraiment une porte de sortie. Et tout ça, en fait, comment dire, ces cours d'anglais qui sont une porte de sortie, après, bah, après le premier cours, ça va déjà être coupé par le fait que John s'en va. C'est-à-dire que même au moment où elle trouve un moyen pour devenir une autre personne, devenir Lucie, bah, ce moyen-là lui est enlevé. Elle va essayer de le récupérer, mais sans jamais y arriver.
C'est vraiment un film qui est sur l'impuissance, finalement. Elle est sans cesse frustrée. Enfin, c'est un film qui est frustrant, et même pour nous, on a l'impression de jamais... J'ai l'impression de pouvoir prévoir ce qui va se passer. On a l'impression de sauter de surprise en surprise et d'être un peu...
Oui.
Surchargé par tous les malheurs qui arrivent à cette pauvre.
Il y a plein de chocs. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de chocs dans le film. Et du coup, ça, je trouve que ça contrebalance ce que tu disais au début. C'est vrai qu'il y a des moments un peu lourds ou clichés au niveau du fait qu'on les a souvent vus. Mais je trouve qu'en fait, ils sont contrebalancés par des moments où on se prend le réel en pleine figure. Bon, je spoilerai rien, mais il y a des moments quand même qui sont très très forts au niveau de. Voilà, bon, je vais spoiler quand même pour dire ce que je pense. Mais,
coupez le son de votre ordinateur.
Juste le moment où elle où sa nièce fait une tentative de suicide, quoi. Enfin, moi je m'y attendais pas qu'elle saute la nièce.
Mais moi,
je trouvais ça assez dur d'un seul coup, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression que le film, il y a une espèce de rythme qui paraît assez calme, enfin assez voilà égal tout le film, mais c'est une façade, et de temps en temps cette espèce de surface et ouais, comme tu dis percé par des moments, des points d'acmé comme ça. Enfin, il y a toujours un scandale qui semble arriver par le fond du cadre, c'est-à-dire le moment... Enfin, dès que quelqu'un tente de se suicider, ça se passe toujours par le fond du cadre, il surgit de quelque part, on ne sait pas trop comment ça se fait. Quand d'un coup, la porte s'ouvre sur la famille cachée de John, ça, d'un coup, alors qu'ils sont dans un petit pavillon de banlieue qui les masque totalement à la caméra. Ouais. Et, voilà, c'est un pavillon de banlieue américaine comme on a vu des millions. Et d'un coup, ça... Hop, ils arrivent dans le champ, ils font effraction totalement par le centre du cadre, et tout se passe comme ça. J'ai l'impression qu'il y a cette espèce de calme de façade, et que c'est un peu le même calme qui masque un peu le vrai visage des personnages. On a toujours l'impression qu'ils portent des masques, et ces masques qui sont interchangeables quelque part, puisqu'il suffit que Setsuko utilise le shampoing de sa nièce pour prendre sa place en quelque sorte, ou tout le monde peut avoir le même tatouage, ou enfin, il y a des tas de figures comme ça qui redoublent cette impression. Et en fait, finalement, là où elle arrive le mieux à s'exprimer, ou le mieux à être à s'en sortir, tu vois, c'est le moment où totalement elle va friser le ridicule en prenant l'identité de cette Lucie, j'ai l'impression.
Oui, c'est un film qui s'affronte beaucoup au problème du suicide et au problème de comment faire lorsque on se rend compte que notre vie personnelle a été complètement débordée par notre vie professionnelle, ou une autre vie qui n'est pas la nôtre, en fait. Et on le voit à plusieurs moments, on le voit avec cette femme qui part à la retraite vers le début du film, et elle fond en larmes, et on sent bien, et même après quand elle l'insulte et qu'on la voit sur le bord de la rame de train de métro, on voit bien que sa vie après va être monstrueusement ennuyeuse, quoi, et qu'elle on sait pas ce qu'elle va faire après. Et voilà, enfin après ça rejoint aussi le fait que le Japon aujourd'hui c'est une des sociétés qui a les plus forts taux de suicide du monde. Mais après ça rejoint aussi ça rejoint un peu les autres, enfin ça rejoint tout le monde, il me semble.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la réalisatrice parle de thèmes qui traversent la société japonaise, mais elle montre quand même que ces impératifs sociaux qui un peu sclérosent la société, on les retrouve de l'autre côté du Pacifique, en Californie, alors qu'on pourrait croire que c'est quelque chose d'assez, voilà, la Californie.
Elle les limite pas au Japon. Enfin...
Et elle montre que c'est quelque chose qui quand même, que les individus, ils sont toujours dans une espèce de performance, j'ai l'impression.
Oui, c'est vraiment, enfin, le suicide, le pendant de tous les moments du film, j'ai la sensation, enfin, c'est peut-être aussi parce que le film commence par un suicide, mais t'as l'impression que tous leurs gestes, c'est un peu des figures avant ça.
C'est vrai.
Que tout prépare à ça, ouais. Ou que c'est la seule réponse, quoi.
Donc du coup, est-ce que vous recommanderiez O Lucie?
Oui, moi beaucoup. C'est un film vraiment très beau, je pense.
Oui, moi un peu.
Moi je pense, ouais, c'est un beau premier film et qui vaut le coup quand même. Tout de suite, passons à l'insulte de Ziad Doueri et c'est Maë qui va nous en parler. Alors le film se déroule à Beyrouth où une insulte qui dégénère conduit Tony, chrétien libanais, et Yasser, réfugié palestinien, devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélation, l'affrontement des avocats porte le Liban au port de l'explosion sociale, mais oblige ces deux hommes à se regarder en face. Alors déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Maë?
Alors j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai trouvé très intéressant dans sa mise en scène et dans son scénario aussi, parce que c'est vrai que voilà, on part de cette dispute entre deux hommes qui a priori n'a rien de politique. Bon, alors peut-être on voit quand même qu'il y a quand même que Tony, le personnage, le Libanais chrétien, n'aime pas beaucoup les Palestiniens, mais à part ça, c'est le seul côté un peu géopolitique qu'il y a au début du film. Et rapidement, en fait, tout dégénère et on commence à voir différentes strates historiques apparaître qui, en fait, montrent qu'il y a quelque chose de bien plus compliqué et bien plus inextricable qu'une simple insulte, en fait. Et ce qui rend la situation absolument terrible, que ce soit entre ces deux hommes, et après ça dégénère rapidement. C'est aussi toute l'intrigue du film, c'est que ce procès, parce que Tony va faire un procès à Yasser qui a fini par le frapper en fait, et ce procès va complètement devenir un problème politique au niveau national, et va générer des émeutes entre réfugiés palestiniens et Libanais chrétiens. Et en fait oui, voilà.
Et comment le film montre ce passage du particulier au général, enfin dans son montage ou dans sa mise en scène?
Eh bien, d'abord, on est très proche des personnages qui vont être, au départ, on a l'impression qu'ils sont assez stéréotypés. Enfin, ce que je disais, on a Tony, le Libanais chrétien, qui écoute des discours politiques de droite, qui crache sur les réfugiés palestiniens. On a Yasser, le gentil réfugié palestinien, qui est un homme bon, travailleur, honnête. Et on voit bien que, en premier lieu, c'est Tony qui va provoquer Yasser. Mais Yasser réagit mal, il réagit mal, et du coup, Tony va exiger que Yasser présente des excuses. Et c'est à partir de là que ça va dégénérer, au moment où Yasser vient présenter ses excuses, il y a tout un contexte avec la télé allumée qui passe des discours chrétiens qui sont contre les réfugiés palestiniens, qui les traitent de vermine, et Tony qui arrive et là qui dit à Yasser « Ariel Sharon aurait dû tous vous massacrer ». Et donc à ce moment-là, on voit bien que le problème de Tony contre Yasser n'a absolument rien à voir avec la gouttière de son balcon, parce que c'est vraiment de ça que la dispute. Mais c'est quelque chose de bien plus profond contre les réfugiés palestiniens. Mais c'est là, je trouve, en fait, où le film est très fin. C'est que ça pourrait être un film, voilà, pro-palestinien. Ça y est, on a un méchant libanais chrétien qui, en fait, est raciste, en gros. Mais petit à petit, c'est un film de procès, donc on a des retournements de situation au fur et à mesure du procès. On en apprend plus sur la vie de ces différents personnages. Et on commence à comprendre en fait qu'il y a quelque chose de bien plus profond que ça. On commence à nous rappeler déjà toute la situation géopolitique, qui est en fait inextricable. Et on se rend compte que aussi le personnage de Tony a aussi vécu des choses qui sont proches de ce que Yasser a pu vivre, parce qu'il a vécu le massacre de Damour. Ce qui fait qu'en fait, on a deux personnages qui se ressemblent énormément dans leur souffrance, c'est juste qu'ils ne sont pas du même camp, j'ai envie de dire. Et du coup, en fait, tout le film pourrait être défini par la morale, l'adage « œil pour œil, dent pour dent », c'est ce que je disais tout à l'heure, « œil pour œil, dent pour dent », et c'est à la fin aussi simple et aussi terrible que ça. En fait, ça devient aussi simple pour ces deux personnages parce que, bon, sans vouloir spoiler tout le film, mais ces deux personnages finalement se ressemblent tellement que ils sont un peu réconciliables au fond. Mmh. Le problème, c'est toute l'ampleur politique que va prendre ce procès entre ces deux personnages, qui va mettre la ville à feu et à sang. Et du coup, on voit qu'en fait, cette chose-là, là, œil pour œil, dent pour dent, où les deux camps en fait souffrent, eh bien, ça donne un conflit impossible à résoudre, comme l'est le conflit entre Palestiniens, Libanais et Israéliens aussi.
D'accord. Donc du coup, est-ce que tu recommanderais ce film, je suppose ?
Ouais, je le recommande beaucoup. J'ai beaucoup aimé.
D'accord. Ben merci, Maï. Et maintenant, nous passons à Anna d'Andrea Palaoro, dont va nous parler Léa. Alors, ce film dresse le portrait intime d'une femme dont la vie bascule après l'arrestation de son mari, nous dit le résumé destiné à la diffusion dans la presse. Alors, déjà, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ce que cela raconte ?
Oui, alors, le mari d'Anna est incarcéré et elle se retrouve toute seule. Donc Anna, c'est une femme qui doit avoir, à peu près 75 ans. Et donc, de sa journée, elle a à peu près rien à faire à part aller à son cours de théâtre, s'occuper de son chien. Donc elle essaye de meubler ce calme. Elle va voir son fils à qui elle parle plus depuis très longtemps pour voir son petit-fils. Elle se fait jeter. Donc ça donne lieu à une scène très très triste où elle est toute seule avec son gâteau d'anniversaire. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est simplement un film sur le silence. Et sur ces moments de stase, en fait, où ton cerveau essaye de faire le point pour se concentrer sur quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire d'utile ? Et ou non, ça reste dans le flou.
D'accord, donc tu as plutôt bien aimé, j'ai l'impression.
Oui, je l'ai beaucoup aimé. Il est très très bien réalisé, en fait. Il n'y a aucun moment qui semble gratuit, alors que tout le film... Nous montre des moments d'intimité ou de... Comment dire ? Des moments très simples. Avec pas de dialogue, forcément, ni un avancement, ni une progression, ni un retournement, rien de tout ça.
D'accord, oui, parce que tu parlais de stase et... C'est vrai que d'après les images qui ont pu circuler, j'ai eu l'impression que le film était tourné avec une faible profondeur de champ, c'est-à-dire que l'arrière-plan était délibérément flou. Et qu'on avait l'impression que Charlotte Rampling, enfin le personnage qu'elle interprète, était souvent isolée comme ça un peu dans une espèce de flou qui l'entourait perpétuellement. Enfin, est-ce que
tout à fait.
T'as eu l'impression. Enfin, qu'est-ce que ça vous veut dire ce choix de mise en scène dans ce film selon toi ?
Bah, ça nous met vraiment dans son état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer le même effet que le film produit sans cette isolation. Mais alors, ce qui est très très fort, c'est qu'il s'en sort avec quelque chose d'assez innovant pour quand même nous montrer un contre-champ ou autre chose, c'est qu'il joue beaucoup avec les reflets. Mmh. C'est-à-dire que souvent on voit le personnage, donc Charlotte Rampling, l'actrice, et par-dessus son visage ou par-dessus ses attitudes, ses gestes, etc., on a tout ce qui se passe derrière elle, parce qu'elle est en train de regarder dans un reflet. C'est assez fort, parce que c'est un moyen de nous plonger dans son regard, sans le faire de manière trop directe, toujours en douceur, et puis on a l'impression que tout ce qui se passe glisse vraiment sur elle avec ses reflets.
C'est vrai qu'en plus, même les couleurs, elles ont l'air très ternes, comme un peu des couleurs un peu passées, et puis l'ambiance paraît sombre et la lumière est presque grise, enfin ça...
C'est très foncé.
Foncé. On a l'impression que... Est-ce que ça redouble la mélancolie de l'héroïne ou est-ce que c'est quelque chose de plus, t'as l'impression ?
Je sais pas si elle est mélancolique. Je sais pas. Je pense que... Elle est assez pragmatique et elle est pas Si, elle est sûrement dans un regret. Mais je pense qu'elle se demande juste qu'est-ce que je fais maintenant. Je sais pas si elle est forcément mélancolique. Et cette atmosphère sombre, ouais, ça fait plus un effet chape de plomb, je dirais.
Chape de plomb, d'accord. Parce que d'ailleurs, Charlotte Rampling a reçu la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine, à la Mostra de Venise. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de sa performance
Alors, j'ignorais qu'elle avait eu un prix, mais en effet, oui, c'est remarquable. Elle joue sur des différentes intensités qui sont vraiment infinitésimales, quoi. C'est des toutes petites choses qui se modifient, et pourtant on voit tout, on voit tout le passé dans un regard. Je sais pas ce qui tient de l'actrice et ce qui tient
du
personnage, parce que j'ai pas de souvenir de l'avoir vu dans d'autres films. Enfin, peut-être que si, mais... mais oui, elle émane ce personnage, ce Anna, quoi.
D'accord. Donc du coup, est-ce que tu recommandes ce film?
Oui, vraiment.
Vraiment. D'accord.
Mais je déconseille de voir les deux films dont on vient de parler, O Lucy et Anna à la suite, comme je l'ai fait. Deux films bien plombs, qui tournent bien autour du suicide. Bon.
Oui, d'accord. Bon, alors, écoutez les conseils de Léa et merci pour ton retour. C'est maintenant l'heure de retrouver Caroline qui nous parle des sorties britanniques dans Toute Toile Dehors.
Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de Toute Toile Dehors. Cette semaine, nous sortons de notre retraite hivernale et faisons un bond transatlantique pour revenir au port. Nous sommes en effet de retour à Londres, où se déroule pour nous The Phantom Thread, une histoire d'amour non pas cousue de fil blanc, mais qui se déplie en véritable écheveau de sentiments complexes, de confrontations et de non-dits, d'estime et d'irritation mutuelle. C'est parti pour une navigation en toile trouble.
I feel as if I've been looking for you for a very long time.
You look beautiful. Very beautiful.
I have things I want to do. Things I simply cannot do without you.
Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me.
Situé dans le Londres glamour des années 50, le film nous raconte l'histoire d'un grand couturier misanthrope, Reynolds Woodcock, admirablement incarné par Daniel Day-Lewis. Adulé par toutes ces dames britanniques, Woodcock aborde cependant ces nouvelles riches qui ne jurent que par le chic, mot dont la simple prononciation lui écorche la bouche. C'est alors que celui-ci s'éprend d'Alma, une jeune serveuse allemande interprétée par Vicky Krieps. Reynolds est ébloui par l'innocente beauté de la jeune fille qui vient finalement habiter avec lui à Londres, dans cette étrange maison gérée d'une main de fer par Cyril, la sœur de Woodcock, qui ne se départ jamais de son air pincé. Alors que l'ego de Woodcock prend toute la place, Alma se doit de trouver de nouveaux et plutôt troublants moyens pour tenter de trouver sa place dans la vie du couturier, entre apprivoisement et apprentissage de l'émotion, mais aussi affrontement mêlant pulsion amoureuse et destructrice tout à la fois. Il serait difficile de qualifier précisément ce qui se trame sous nos yeux, tant Paul Thomas Anderson tresse et mêle dans son nouveau film autant d'atmosphères et de genres différents. Tout commence comme un huis clos au sein du monde de la haute couture, où Woodcock s'enferme dans une précision ritualiste, voire fétichiste. Anderson travaille une photographie dans les tons crème, dans lesquels notre œil se complaît sans fin. Une atmosphère rêveuse s'étire dans ses intérieurs londoniens. C'est une véritable étude psychanalytique du génie qui se développe ici. On suit la vie quotidienne du créateur à fleur de peau qu'un rien irrite. Raclement de dents sur une cuillère, ou encore tartine beurrée qui crisse au-dessus d'une tasse de thé trop chaud. Le magistral mixage du son témoigne d'une échelle d'essence parcourue dans toutes ses potentialités. On entendrait presque un fil passer dans le chat d'une aiguille. Mais bientôt, ce petit monde fait place à une romance qui elle-même s'en va visiter les recoins hitchcockiens de la romance gothique. Car ce qui se joue entre Alma et Reynolds Woodcock tient véritablement du combat d'âme à âme, dans une étrange danse d'attirance et de volupté, puis de distance froide, empreinte de ressentiments morbides. L'on pense par exemple à ce subtil changement de ton de la part d'Anderson qui nous emmène d'une délicate et touchante scène de séduction au début du film au ressurgissement de l'obsession du pli, du vêtement, de la passion primaire du métier. Woodcock ramène en effet la jeune femme chez lui, lui demandant de servir de modèle. La séance, flatteuse et grisante pour Alma au début, tourne à l'inquiétante étrangeté, puisque le créateur se perd dans les mesures qu'il prend de son corps à en oublier qu'il a sous les doigts une personne réelle. La caméra cisèle, les prises de vue macrométriques sur le détail de couture ne manquent pas. l'ourlet s'y fait monde et la dentelle oblitère. Ces délicates modulations sont soulignées par un autre génie taciturne qui n'est autre que Johnny Greenwood, le claviériste et sampleur du célébrissime groupe Radiohead. Fort d'autres collaborations avec Paul Thomas Anderson, comme pour l'exceptionnel There Will Be Blood en 2007 notamment, puis Inherent Vice en 2014, Greenwood change de style ici, pour des compositions orchestrales évoquant les pièces romantiques du XIXe siècle, se muant parfois en formation de type musique de chambre. On y retrouve en effet des cordes lancinantes auxquelles répondent des vents et bois lumineux, mais aussi quelques mesures de piano classique qui viennent colorer les pièces de la maison du couturier et ponctuer l'histoire de quelques cadences impressionnistes. Enfin, il nous faut saluer ce qui, selon ses dires, serait la dernière performance de Daniel Day-Lewis. Pour son dernier rôle, l'acteur a choisi de renouer avec Paul Thomas Anderson, qui avait déjà révélé sa maîtrise de l'interprétation du mania mégalomane dans There Will Be Blood. C'est avec délice qu'on redécouvre les traits de l'acteur, désormais couronné d'une magnifique tignasse gris-perle. Un rôle de choix pour une révérence tout en élégance, entre rigueur et rudesse, mais aussi force d'âme désarmante dans l'apprentissage qu'il fera du respect et de l'amour de l'humilité dont Alma lui fait don. Les tours et les détours de Reynolds et d'Alma seront à découvrir dans les salles françaises, seules ou accompagnées, le 14 février. En attendant, nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau numéro de Toute Toile Dehors.
Passons enfin aux sorties et événements cinématographiques de la semaine. Aujourd'hui sort Crow-Man, le dernier né des studios Artman. C'est l'histoire de Doug et de son meilleur ami Crochon, deux hommes préhistoriques qui s'unissent pour sauver leur tribu d'un puissant ennemi. Sort également Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Alors le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violence, Myriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu'elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive. Ensuite sort également Revenge, qui a fait sensation au festival de Gérard Mer qui vient de s'achever. Alors c'est un film de Coralie Farja qui raconte l'histoire de trois riches chefs d'entreprise, quarantenaires, mariés et bons pères de famille qui se retrouvent pour leur partie de chasse annuelle dans une zone désertique de canyon. Un moyen pour eux d'évacuer leur stress et d'affirmer leur virilité arme à la main. Mais cette fois, l'un d'eux est venu avec sa jeune maîtresse. Ensuite sort également un film qui s'intitule The Ride, qui est un film de Stéphanie Gaillard et c'est un documentaire qui a été encensé en festival. Ça raconte l'histoire d'une troupe de cavaliers Sioux qui, chaque hiver, traverse les grandes plaines du Dakota pour commémorer le massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee. Sur ces terres qui ne leur appartiennent plus, les aînés tentent de transmettre aux plus jeunes leur culture ou ce qu'il en reste. Ensuite, pour les événements cinématographiques de la semaine, le Ciné-Club de la Fourmi poursuit sa rétrospective consacrée au film oscarisable. Ce soir à 18h30, Les Heures Sombres de Joe Wright sera présenté. Alors c'est un biopic sur Churchill, nommé Premier ministre dans la précipitation en mai 40. La séance est présentée et suivie d'un échange animé par Flavien Poncet. Et toujours le Ciné-Club de la Fourmi, jeudi à 18h30, qui présentera Three Billboards de Martin McDonagh, que nous avions chroniqué ici. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie Thomas, Léa et Maë de m'avoir accompagné pour cette 82e émission. Bonne semaine à tous et à bientôt dans les salles obscures.